Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question du rapport entre Dieu et la nature. Parmi les visages de Dieu, il est un visage qui est le visage de la nature. Et je vais commencer par vous présenter la thèse selon laquelle il y aurait un rapport de très grande proximité, voire d'identification entre Dieu et la nature. Et ensuite, nous prendrons quelques textes bibliques pour voir comment est-ce que cela réagit avec cette hypothèse. Mais avant toute chose, il me semble que le mieux est de vous donner un peu la parole sur vous, votre idée de la manière dont il peut y avoir un rapport entre Dieu et la nature. Je prends un exemple. Vous êtes en pleine nature, disons du côté de l'est de la France, petite brume au matin, horizon plutôt bleu-gris, etc., vallon, etc. Vous êtes un peu seul, une petite fraîcheur, une petite bise comme ça. Est-ce que vous ne sentez pas le divin vous flatter les narines?
C'est en montagne.
Alors, oui, alors, donc la montagne. Jean-Claude, vous disiez...
J'ai simplement dit que c'était le divin luthérien dans l'est de
la France. Oui, c'est vrai. C'est assez juste parce que, en fait, si je prends à dessein l'est de la France... C'est à mon avis parce que c'est aussi un lieu qui, sur le plan de la géographie, favorise le romantisme allemand. Et qu'il y a notamment chez Goethe et puis d'autres, Oderlin aussi, quelque chose qui est de l'ordre de l'émanation du divin à travers la nature, qui est rendu possible par la nature qui est face à eux. Mais en fait, j'étais intéressé aussi de me tourner vers Jean-Claude pour savoir, moi qui n'ai pas... connu le personnage, ce que quelqu'un comme Théodore Monod pouvait dire de son rapport au désert en intégrant la dimension de Dieu. Est-ce que le désert, c'était un lieu où Dieu était visible, palpable, ou avait-il un autre rapport avec ça ? D'accord.
Mais il n'empêche que je pense, je suis persuadé, qu'aller dans le Sahara ou dans n'importe quel désert, c'était aussi pour lui une rencontre avec Dieu.
Est-ce que ça vous est arrivé une fois ou l'autre d'avoir quelque chose que l'on pourrait référer à une expérience mystique, disons, c'est-à-dire le sentiment qu'au contact de la nature, oui, le divin est présent?
Moi, ça m'est déjà arrivé tout en haut de Pitzner, en Suisse, quand il y a un ciel bleu magnifique, qu'on voit toutes les montagnes enneigées. Là, on a un sentiment bizarre. Je ne peux pas dire, parce que je le refuse, en fait.
Ouais.
Voilà.
Ce qui est très compréhensible parce que il y a une très grande méfiance vis-à-vis de la nature dans le christianisme, et on va voir que c'est encore plus vrai dans les textes bibliques. Néanmoins, il y a quelque chose, plutôt que rien, il y a un sentiment religieux, hein, aurait dit Martin Luther, un peu l'expérience du noumen, dirait Rudolf Otto, c'est-à-dire le noumen, c'est cette fibre religieuse qui nous met au contact de quelque chose qui à la fois nous fascine et nous terrifie. C'est à la fois quelque chose qui nous attire et quelque chose que l'on refuse. Ça correspond à peu près à ce que vous dites. Vous parlez aussi d'expérience de la montagne. La montagne, elle est assez fréquente dans les textes bibliques. On dit que c'est d'ailleurs le lieu où Moïse et de nombreux prophètes font l'expérience de Dieu, là où Dieu se révèle, à tel point qu'on appelle Horeb et Sinaï la montagne de Dieu. Certainement, il y a aussi l'expérience de l'isolement qui favorise cette rencontre.
J'allais le dire. J'allais le dire aussi en ce qui me concerne.
Oui.
Quand je suis parti cette fois dans des régions polaires, la rencontre de la glace, de la mer gelée, quand je me trouvais isolé, seul quelque part, il y avait un sentiment vraiment de grandeur absolument que je ne saurais pas expliquer.
Alors, quelqu'un comme Victor Hugo, par exemple, s'inscrit dans cette perspective-là, et on parle de, en général, de sentiment océanique, même si là, l'océan est un peu gelé. Vous voyez, c'est cette idée selon laquelle on se découvre au contact de vraiment plus grand que soi. Et du coup, la transcendance, elle s'exprime par cette grandeur, mais aussi, par rapport à ce que vous me dites, cette pureté. Parce que le ciel bleu de Christiane est sans nuages.
Oui, c'est vrai.
Et finalement, il n'est pas improbable que cette expérience personnelle s'appuie sur aussi la projection que nous faisons du divin, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la pureté, hein, du sans défaut. Et un ciel parfaitement bleu, comme on le trouve par exemple en Provence, peut-être plus facile pour faire l'expérience du divin que notre ciel de traîne parisien. Ces petits témoignages pour vous dire que dans la tradition chrétienne, il y a eu un courant qui a justement considéré que la nature était non seulement le théâtre dans lequel Dieu s'exprime, mais peut-être dans une certaine mesure Dieu lui-même. Et le terme technique pour désigner ce courant de pensée, ce courant théologique qui dit que Dieu s'exprime dans la nature, c'est finalement le panthéisme. C'est un terme qui apparaît en 1705 sous la plume de John Toland, T-O-L-A-N-D. Tout d'abord, il utilise panthéiste, c'est-à-dire la personne qui va s'inscrire dans ce courant d'idées. Et le panthéisme, c'est un mot qui apparaît en 1712. Donc vous voyez, c'est assez tardif. Mais je vous montrerai à travers l'exemple de John Scott Erigène qu'on a déjà ça préalablement au Xe siècle. Le panthéisme, donc, c'est du grec. Pan, ça veut dire tout. Et puis théisme, théos, Dieu. L'idée selon laquelle Dieu est partout. Donc, vous voyez, ça s'oppose à une idée philosophique que l'on avait repérée, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté Dieu comme créateur et de l'autre le monde comme créature, qu'il y aurait deux univers distincts. Ici, le panthéisme, c'est de dire que Dieu ne s'est pas retiré, Dieu n'est pas à l'écart, il est soit à l'œuvre partout, soit la nature est carrément divine. Alors, ça vous semble peut-être assez peu de choses sur le plan théologique, mais en fait, ça a deux conséquences majeures. La première conséquence, c'est de nier la dimension créatrice de Dieu. Parce que, évidemment, si Dieu est la nature, Dieu n'a pas pu se créer lui-même, donc Dieu n'est pas créateur. Et s'il est à l'œuvre dans tout, s'il est parmi, il n'est pas transcendant. Je veux dire par là qu'il n'est pas surnaturel, il n'est pas d'une autre nature. S'il peut partager notre condition, ça signifie qu'il n'est pas d'une condition supérieure. Donc là, sur le plan métaphysique, c'est-à-dire, disons, le registre symbolique, il n'y aurait pas d'un côté la nature humaine et au-dessus une nature divine qui serait surplombante. C'est ce qu'on appelle le monisme. Le monisme, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'être, ou qu'une seule nature, en quelque sorte. Par opposition au supranaturel, qui est de considérer que Dieu est au-dessus de la nature humaine. Donc, évidemment, dans cette façon d'envisager Dieu dans le même registre que l'homme, on suppose que Dieu n'est pas un être au-dessus des êtres. Soit on va dire que c'est l'être qui rend la vie possible, qui rend l'être possible, pour le dire avec les philosophes, la source de l'être. Soit on va dire que c'est une façon de désigner ce qu'est l'existence au sens plein du terme, une sorte de perfection. Du coup, dans cette perspective-là, on va considérer que le divin, c'est la nature accomplie. Donc effectivement, un paysage parfait, cette mer de glace impeccable, ce sentiment d'élévation, cette impression de toucher les sommets de ce que la nature peut produire. Et après tout, quand on boit un vin merveilleux, on a tendance à dire qu'il est divin. C'est-à-dire qu'il a accompli son potentiel. Hein ? Il est allé... Quand on dit que c'est divin, avec cet appui de langage, c'est quand même pour dire quelque chose de juste, au sens que ce que nous éprouvons est vraiment un accomplissement. C'est quelque chose d'ultime. Comme si on était allé au bout du processus. Comme si on avait fait vraiment le mieux qui puisse être fait. Donc, le panthéisme, selon la définition qu'en donne le philosophe Alain, c'est que tout est Dieu et que le tout est Dieu. Cette définition assez juste pose bien les termes qui nous permettent de comprendre une des conséquences éthiques du panthéisme. Une des conséquences éthiques, et j'utilise délibérément ce mot parce qu'on va ensuite parler de Spinoza, la conséquence c'est qu'on est extrêmement respectueux de l'environnement. Parce que si tout est Dieu, alors dès que l'on défigure le monde, on défigure Dieu. Dietrich Bonhoeffer prônait la non-violence parce que toute violence humaine, enfin portée sur l'homme, était une façon de défigurer le Christ. Il avait une vision christocentrique. Le panthéiste dira de façon générale, ne pas respecter l'environnement, le monde, la création, c'est une façon de blasphémer. C'est la seule façon de blasphémer, en fait. C'est de s'en prendre au divin, dans son essence. Pour le dire encore avec un mot philosophique, on pourrait dire que le panthéisme, c'est ce qui pose l'unité substantielle entre Dieu et le monde. L'unité substantielle, ça veut dire qu'on est de la même substance. Donc, on partage une sorte de condition. Il y a une communauté de destin entre nous et le divin. Quel est l'intérêt de cela ? C'est de dire que, du coup, on est solidaires les uns des autres. C'est que... je ne peux pas ne pas me préoccuper du sort de ce qui arrive au loin. D'abord parce que d'un point de vue, ne serait-ce que égocentrique, ça a une incidence sur moi. Donc, il y a une interaction qui fait que si je m'occupe de ce qu'il y a au loin, ça aura une répercussion positive sur moi-même. Et, dans l'autre sens, ce que je fais ici, ayant des répercussions là-bas, je fais attention à ce que je fais ici. Alors, ce qui a été l'intérêt de ce panthéisme, c'est de considérer que, du coup, le monde était intelligible, parce qu'en fait, il suffit de regarder le monde pour voir Dieu, et donc pour le comprendre. Ça veut dire qu'on a Dieu au bout du regard, ça veut dire qu'on a Dieu au bout des doigts. Et du coup, vous voyez... Il n'y a pas cette idée d'un Dieu caché, qu'il faudrait approcher à tâtons par l'intermédiaire d'exégètes diplômés qui connaîtraient le secret des dieux. Non, Dieu est là, disponible pour tout un chacun. Donc il y a une sorte d'intelligibilité du monde. Deuxième aspect, deuxième conséquence, c'est que du coup, on nie, on disqualifie les miracles surnaturels, puisqu'il n'y a plus de nature au-dessus de la nature. Donc, il n'y a que les lois de la physique, il n'y a que les lois des sciences, dures ou un peu moins dures. Donc, pas de miracle surnaturel. Une omniprésence divine, troisième conséquence. Et du coup, l'expression qui résume tout cela, c'est une mystique sans mystère. C'est une formule qui reprend bien ensemble, une mystique sans mystère. Donc, il n'y a plus cette espèce de cache-sexe qui est l'écran, le mystère de la foi, etc. Non, on est dans le registre d'une religion qui rationalise au maximum. Ce qui peut paraître étrange, parce qu'on se fait du panthéisme l'idée de quelque chose qui est très irrationnel. parce que on confond peut-être un peu le panthéisme avec l'animisme. L'animisme, c'est l'idée selon laquelle toutes les choses sont animées par un esprit, l'esprit de Dieu, y compris les objets a priori inertes. Mais du coup, on a des pieux sacrés, du coup, on a des maisons qui ont une âme, en quelque sorte. Là aussi, ça relève un peu de l'abus de langage, mais si les maisons hantées sont arrivées jusqu'à nous, c'est parce qu'on considère qu'un lieu peut être habité, en quelque sorte. Et du coup, s'il y a un esprit qui habite le lieu, il donne vie au lieu. Et du coup, le lieu a une existence propre. C'est un peu un abus de langage, mais ça a été figé dans des cultures. Et quand je dis figé dans des cultures, c'est notamment dans des cultures occidentales qui se disent qu'en Afrique, c'est comme ça que ça marche. Ce qui, évidemment, est bien autre chose. Donc, souvent, le panthéisme a été disqualifié parce qu'on s'en faisait une image un peu infantilisante. Spinoza est panthéiste. Spinoza va avoir quelques problèmes, ceci dit, avec la religion officielle et avec bien d'autres. Qu'est-ce qu'on reproche au panthéisme ? C'est que du coup, il y a une sorte de confucianisme. C'est-à-dire que tout est dans tout réciproquement, bon voilà, bon, c'est tout est Dieu, donc tout se vaut. Vous voyez ? Une sorte de tohu-bohu ultime. Voilà. Tout est Dieu, donc c'est à celui qui sera le plus Dieu finalement. Vous voyez ? Donc je veux dire, c'est un reproche tout à fait légitime. Il peut y avoir une sorte de nivellement qui fait que tout est indifférencié. Et notamment sur le plan de l'éthique. Comme si tout était possible, puisque Dieu est là, finalement. Et du coup, il légitimerait tout ce qui se fait, puisqu'il est partout. Y compris la violence, y compris l'injustice, après tout. Ça relève de la volonté de Dieu, puisque c'est possible, alors qu'il est là, et qu'il ne fait rien pour l'empêcher. Bon, on avait vu la question de la toute-puissance de Dieu dans une séance précédente. Ça permet de nuancer un peu, mais... Donc, ça veut dire qu'il y a une indistinction entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre la liberté et la nécessité. Tout est Dieu. Donc, évidemment, ça, c'est des raisons profondes et justes, mais là où ça va se battre, notamment du point de vue de l'Église catholique, c'est que ça pose aussi l'équivalence entre toutes les croyances, et donc les religions. Et le problème, c'est qu'à terme, c'est la mort de la religion. Ou des religions. Mais il n'y a plus besoin de religion. Si la religion est le média, le moyen de communication entre l'homme et Dieu, ben, si Dieu est là partout, y compris en moi, là, dans ce qui se passe, la religion devient accessoire, secondaire. Et en tous les cas, les hommes de religion n'ont plus la main sur les consciences.
Je ne veux pas qu'on passe le...
Si Dieu est effectivement partout et qu'il n'est pas, par exemple, simplement dans la mémoire des anciens, ce que je veux dire, c'est que si Dieu est là, c'est qu'il continue à se révéler. On va le voir avec des textes que je vais vous faire passer ensuite. Emerson, en fait, hein, pour vous dire tout de suite, et qui le dit très bien. Si Dieu continue à se révéler, comme il l'a fait au temps des hommes de la Bible, qui, eux, n'avaient pas besoin de clergé, du coup, on n'a pas besoin de clergé nous-mêmes. C'est-à-dire que le culte de l'Ancien Testament, par exemple, tout ce qui est faisons un temple, faisons une liturgie, faisons des offrandes, etc., ça intervient dans le moment où on dit Dieu ne s'adresse plus à l'homme, on n'entend plus Dieu, on ne le voit plus. Et du coup, on organise une vie religieuse pour rendre visible ce qui n'est plus visible. Si dans le panthéisme, Dieu est donc là, disponible, ça veut dire que chacun y a accès directement et on n'a plus besoin de la médiation de la religion. C'est une des conséquences possibles en tout cas. On peut dire qu'on a toujours besoin de la religion comme d'une pédagogie qui va nous ouvrir la conscience à ce qui est disponible, mais ultimement on peut considérer qu'une fois que cette éducation a eu lieu, la religion n'a plus qu'à s'effacer. Mais sans être panthéiste, on peut le dire aussi. D'ailleurs, on a tendance un peu à le dire ici aussi. La religion doit toujours s'effacer derrière la foi de l'individu, de la personne. La religion, c'est en quelque sorte, je dis peut-être de façon caricaturale et légèrement provocatrice, mais à peine, la religion est le mal nécessaire pour que nous puissions nous-mêmes nous mettre en relation avec le divin, qu'il soit ici ou qu'il soit là-bas. Mais comme je vois qu'il y a encore de la perplexité sur les usages, continuons. Je veux dire...
Ça se discute.
Oui, mais bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut justement en discuter. En tous les cas, c'est une des causes de la bataille qui va s'engager entre l'Église catholique et les courants panthéistes, jusqu'à la disqualification du panthéisme. Donc Spinoza, c'est un archétype du panthéisme. Dans son éthique, il écrit « Tout est en Dieu, sans Dieu rien ne peut être ni être conçu ». Donc lui, c'est un panthéisme, mais ce serait plutôt une sorte de panenthéisme, c'est-à-dire que tout est en Dieu, mais tout ne se confond pas avec le divin, ce qui va lui permettre de développer une éthique quand même. De même que Dieu ne se confond pas avec le monde. En fait, il va dire que Dieu est l'âme du monde. Bon, je ne sais pas si c'est de l'animisme, je ne connais pas assez l'animisme pour ça, mais finalement, Dieu comme... Et on le sent, c'est un petit peu la position des philosophes, notamment d'Emmanuel Kant, où Dieu, c'est globalement la morale universelle. Dieu, c'est ce qui permet au monde de ne pas se désintégrer. Ou comme le dirait Camus, c'est ce qui permet au monde de ne pas se défaire. Enfin, Camus ne dit pas ça au sujet de Dieu, mais il dit l'action de l'homme est là pour éviter que le monde se défasse. On pourrait dire avec Spinoza que le divin, c'est ce qui permet à l'homme de maintenir le monde de façon vivable. Que dit Spinoza? Il dit que les êtres dérivent de Dieu, ils procèdent de Dieu, et ils remontent à Dieu, c'est la conversion. Et bien ça, vous voyez, c'est quelque chose que l'on trouve dans la pensée orientale aussi, très proche de l'hindouisme par exemple. L'idée du retour au un primordial. Et dans une certaine mesure, l'hindouisme est panthéiste. C'est-à-dire que l'hindouisme va considérer que nous faisons partie de Dieu. Nous avons à retourner auprès de l'unité primordiale. Simplement, l'hindouisme va considérer que il y a beaucoup de choses qui font partie de ce que nous appelons le réel, qui en fait relèvent de l'impermanent, une sorte d'illusoire. C'est-à-dire qu'il y a des déchets. Il n'y a pas que l'un. Il y a aussi des choses encombrantes, en quelque sorte. Voilà, donc, à l'est, on a Goethe, à l'ouest, on a Byron, qui vont être dans cette perspective-là, au niveau littéraire. Donc, à cause de ces gens-là, et puis après, autour d'Emmanuel Kant, Jacobi, Mendelssohn, il va y avoir une forte discussion, une forte opposition. Je passe un peu, mais c'est pour vous dire que la condamnation formelle par l'Église date de 1864, avec ce qu'on appelle le syllabus, qui condamne l'identification de Dieu et de la nature, et qui condamne l'identité substantielle de Dieu et des créatures. Donc c'est le moment où l'Église catholique dit « Non, non, on a une métaphysique supranaturelle, et non pas moniste. » On ne partage pas tous le même espace-temps. Dieu est d'une autre substance, d'une autre qualité, d'un autre rapport au monde. Et Vatican I, donc on est en 1870, déclare Dieu distinct du monde substantiellement et essentiellement. C'est des catégories philosophiques. Donc la substance, vous voyez grosso modo ce que c'est, notamment avec Rabelais, la substantifique moelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui est matériel, la substance. L'essence, on pourrait dire, c'est ce qu'il ne faut pas enlever d'une personne ou d'une chose pour qu'elle continue à être. L'essence, c'est si vous l'enlevez, ben c'est plus cette personne-là. Donc vous voyez bien, vous pouvez être handicapé, vous restez vous-même. Donc le corps n'est pas votre essence, par exemple. Vous êtes plus que, qu'un corps. Donc on voit que la querelle se cristallise autour, bien sûr, du 18e et puis plus précisément du 19e siècle. C'est avec la crise du positivisme. Donc c'est la condamnation par l'Église catholique de tout ce qui relève un peu des sciences modernes. Mais c'est une querelle qui, déjà au 9e siècle, était apparue sérieusement avec Jean Scott Érigène. Donc, il naît en 810 en Irlande, cet homme-là, puis après il va venir en France. Et son principal objet d'étude, ça va être la nature. Et c'est à partir de lui, en fait, hein, que l'identification possible entre Dieu et la nature est envisagée. Je vais faire un peu vite avec Scott Érigène, parce qu'il y a des choses qui sont lisibles. Ce qui est intéressant avec Scott Érigène, c'est que il est le premier à dire, bon, si il n'y a pas le monde des hommes et puis le monde de Dieu, ça veut dire que du coup, il n'y a pas d'enfer. Petite conséquence comme ça, au passage. S'il n'y a qu'un seul monde où Dieu se trouve, bah forcément, il ne peut pas y avoir d'enfer. Et Dieu n'aurait pas créé un enfer là où il se trouve. Il ne pourrait pas être en enfer. Bien. Donc, il n'y a plus d'enfer. Disqualification de l'enfer. Oui, c'est des conséquences comme ça assez intéressantes. Que dire encore bah oui, qu'en 865, il est dénoncé comme hérétique par Nicolas Ier, que l'accusation ne sera pas confirmée, mais que voilà, c'est le premier coup d'arrêt qui est quand même prononcé par l'Église officielle. Je viens de passer en arrière au 9e siècle, maintenant je retourne au 19e siècle avec Emerson. Et je vous fais passer un texte d'Emerson, parce que c'est peut-être plus facile d'accès, puisque nous sommes un peu ses contemporains, en quelque sorte. Donc je vous ai photocopié le début de son ouvrage Nature, en français La Nature, 6,10 €. Donc c'est une succession de textes dont le fil conducteur, c'est justement le rapport entre Dieu et la nature, avec une approche qui est à un arrière-plan théologique quand même. Je vous ai photocopié quelques éléments de son introduction. Donc Emerson, c'est un homme du 19e siècle aux États-Unis, fils de pasteur, pasteur lui-même, jusqu'au jour où il n'en peut plus de son église, et qu'il va donc demander à être déchargé de sa fonction. Vous trouvez d'ailleurs la lettre, la prédication qu'il écrit à son conseil presbytéral dans le livre édité par Raphaël Picon, parce que dans le livre de Raphaël Picon, qui reprend le discours qu'il fait aux étudiants de Harvard, il y a un deuxième texte qui s'appelle La scène, un texte tout à fait intéressant, qui dit qu'il faut arrêter de célébrer la scène en église. Et en fait, c'est la prédication par laquelle il présente sa démission à son église. C'est une prédication d'émission. C'est intéressant sur le plan de la forme, mais aussi de la pensée. Voilà, je vous lis ce qu'il écrit dans son introduction au livre Nature. Notre époque regarde vers le passé. Elle bâtit le tombeau des ancêtres. Elle fait de l'histoire de la critique. Elle écrit des biographies. Les générations passées, elles, regardaient Dieu et la nature face à face. Nous, à travers leurs yeux. Pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi, entretenir une relation originale avec l'univers ? Vous voyez, c'est ce que je vous disais sur la mort de la religion, en quelque sorte. La religion, c'est la technique que nous mettons en place pour retrouver le divin à travers ce que nos aînés ont vécu. Et bien là, il dit... pourquoi ne pas nous mettre directement en relation avec le Dieu vivant ? Dieu vivant ? Très bien, alors dans ce cas-là, ne faisons pas le détour par le passé. Pourquoi n'aurions-nous pas une poésie et une philosophie puisée en nous-mêmes et non dans la tradition ? Une religion reposant sur une révélation qui nous soit propre et non sur l'histoire de la leur. Accueillis pour une courte saison au sein de la nature, dont les flots de vie coulent autour et à travers nous et nous invitent par les pouvoirs qu'ils donnent à agir conformément à celle-ci. Pourquoi devrions-nous tâtonner parmi les ossements blanchis du passé et attifer les générations vivantes de ces oripeaux fanés ? Le soleil est aussi brillant aujourd'hui qu'hier. Il y a davantage de laine et de lin dans les champs. Il existe de nouvelles terres, de nouveaux hommes, de nouvelles pensées. Exigeons nos propres œuvres, des lois et un culte qui soient les nôtres. Vous voyez, il y a une véritable revendication chez Emerson de ne pas faire de la foi l'histoire d'une archéologie, mais l'histoire d'un rapport vivant à notre environnement, au monde d'aujourd'hui, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il donne sa démission de la fonction pastorale en son Église, c'est qu'il n'en peut plus de tous ces prédicateurs qui, en quelque sorte, embaument le divin. Et il a à un moment donné un récit assez terrible, il est au culte, il y a le prédicateur qui, grosso modo, sert la soupe, et puis autour, il y a des bourrasques de neige, etc. Et il dit, c'est incroyable, quoi. Je suis en train de m'endormir à cause de ce prédicateur, alors qu'autour, la nature est complètement en train de chambouler tout ce qui lui passe sous la main. Je veux dire, la vie, elle était dehors, et pas dans la chair. Il est hors de doute que nous n'avons pas de question à poser qui n'ait pas de réponse. Nous devons avoir foi dans la perfection de la création, au point de croire que, quelle que soit la curiosité que l'ordre des choses a éveillée dans notre esprit, l'ordre des choses peut la satisfaire. Donc ça, c'est l'idée selon laquelle, du coup, le monde est intelligible. On peut exploiter à fond notre raison pour comprendre le monde, notre place dans le monde, ce que nous avons à y faire. La condition de chaque homme est la solution sous forme de hiéroglyphe de toute recherche qu'il voudrait mener. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir les sarcophages de nos ancêtres, il suffit de s'observer soi. Nous sommes le premier terrain d'expérimentation. Il la vit comme vie avant de la concevoir comme vérité. Donc là, c'est l'idée qu'il faut jouir de la vie. Vous voyez, c'est très carpe diem. De même, la nature contient déjà dans ses formes et ses tendances sa description de son propre dessein. Interrogeons la grande apparition qui resplendit si calmement autour de nous. Demandons-nous à quelle fin la nature existe. Du coup, il dit, eh bien, nous avons tout intérêt à sortir de nos cabinets, à sortir de chez nous pour entrer dans la grande bibliothèque de la nature, l'observer et comprendre ce qu'est la vie. Considéré d'un point de vue philosophique, l'univers est composé de nature et d'âme. Donc là, on voit la métaphysique d'Emerson. Par conséquent, tout ce qui a strictement parlé est séparé de nous. Tout ce que la philosophie distingue comme étant le non-moi, donc tout ce qui m'est étranger, tout ce qui est autre que moi, c'est-à-dire à la fois la nature et l'art, les autres hommes et mon propre corps, doit être rangé sous le nom de nature. C'est la raison pour laquelle on parle de nature humaine, on parle de nature sociale, on parle de la nature au sens de l'environnement, on parle de la nature des choses. En énumérant les valeurs de la nature et en faisant la somme, j'utiliserai le mot dans les deux sens, dans son acception tant commune que philosophique, dans une recherche aussi générale que celle qui nous occupe ici. Le manque d'exactitude n'est pas essentiel et ne doit entraîner aucune confusion de pensée. La nature, dans son sens courant, fait référence à des essences non changées par l'homme, l'espace, l'air, la rivière, la feuille. L'art s'applique au mélange de la volonté humaine avec les mêmes objets, dans une maison, un canal, une statue, un tableau. Mais ces opérations prises ensemble sont si insignifiantes, un peu coupées, un peu cuir, un peu rapiécées, un peu lavées, qu'au regard d'une impression aussi vaste que celle que le monde produit sur notre esprit, elle ne change rien au résultat. Voilà, donc c'est l'expérience que vous nous disiez. Face à la nature, il y a quelque chose qui peut-être est indescriptible dans un premier temps, ineffable en tout cas, mais qui fait plus que nous donner le goût de l'éternité. C'est, pour Emerson, le lieu où nous allons pouvoir nous mettre à l'école de la vie. Et il le dit de façon très forte dans son journal. Il dit ceci, je vous retrouve la phrase. Mais d'ailleurs, même c'est dans ce livre Nature, il écrit ceci. L'aspect de la nature est pieux. Comme la figure de Jésus, la nature se tient la tête penchée, les mains repliées sur la poitrine. L'homme le plus heureux est celui qui tire de la nature une leçon de prière. D'autres petites citations d'Emerson. La présence d'un élément spirituel est essentielle à la perfection de la beauté. La haute et divine beauté qui peut être aimée sans mollesse excessive est celle qui se trouve combinée avec la volonté humaine. La beauté est la marque que Dieu appose à la vertu. Donc, il voit bien la nature non pas simplement comme l'élément sauvage, mais comme la création où l'homme est en interaction avec ce qu'il y a autour de lui. Alors son drame, c'est le suivant. Il dit « Peu d'adultes sont capables de voir la nature, la plupart des gens ne voient pas le soleil. Arriver à être une pupille transparente qui n'est rien, mais voit tout. Les courants de l'être universel circulent à travers moi. Je suis une partie ou une parcelle de Dieu. » Voilà. Bon, à partir de là, grosso modo, vous savez tout.
De quand date ça?
1863, je crois. 1836. Ah oui, si. Dans son journal. Mai 1838, il écrit ceci. Ben, en fait, ça reprend autrement ce que vous disiez. Dans le bois, mieux qu'aucun serment, Dieu était manifeste. Entre les mélèzes, pareil à des cathédrales, il se glissait avec le pin nain, il chantait dans la grive, se plaignait dans le rouge-gorge, miaulait dans l'oiseau-chat, vibrait dans l'anémone, s'épanouissait dans la pomme sauvage. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est de la poésie?
Non, mais c'est très vrai.
Oui.
J'y vois une certaine naïveté quand même.
Oui.
On trouve chez pas mal d'auteurs. Moi, je pense à. Je me trompe peut-être, mais ça doit être Montaigne qui a dit nature est un guide. Alors, c'est cette époque où vraiment on trouve que la nature est la source de tous les bienfaits, alors qu'on peut également s'interroger sur toutes les difficultés, les problèmes que la nature pose à l'homme. Surtout en ce moment, d'ailleurs, c'est un sujet devant l'actualité.
Oui. Laurent Gagnebin qui, dans sa dernière prédication à l'oratoire, rappelait que la nature est un très gros intestin. Ce qui dit à quel point la nature est extrêmement violente. Et qu'après tout, la nature, c'est quand même le règne du plus fort. La nature est cruelle, injuste. C'est pour ça que, à la fois, c'est très vrai, et à la fois, je pense que ça mérite d'être un peu nuancé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être trouver la limite de ce discours. C'est-à-dire que je pense que ce discours, cette approche est tout à fait intéressante parce qu'elle est stimulante, parce qu'elle éveille. Elle éveille le regard, elle éveille la conscience, elle éveille la solidarité, comme je le disais. Et puis, à un moment donné, il faut se demander effectivement si tout cela a bien un sens. Parce que la nature est extrêmement ambiguë. Comme je vous l'avais dit à une séance précédente, un coucher de soleil, c'est magnifique quand on est sur une plage au sable fin, la tête sur l'épaule de son amoureux, etc. Et puis, c'est extrêmement douloureux quand on est seul, qu'on vient de perdre quelqu'un, et ça évoque le crépuscule, la fin de toute chose, et la nôtre en particulier. Donc, quelque chose peut être à la fois très romantique pour quelqu'un, et puis tout ce qu'il y a de plus terrifiant pour un autre. Et pourtant, c'est la même nature, le même coucher de soleil, et peut-être juste quelques dizaines de mètres qui nous séparent. Donc, c'est vrai, puis comme on le rappelle de temps en temps, Monod aussi, le rappelait, il le disait, le lion c'est de la gazelle digérée. Au niveau de la leçon que cela représente, c'est pas sans poser problème sur le plan de l'éthique. Si la nature c'est la seule haute école, c'est une école un peu cruelle. Et du coup, une des critiques faites au panthéisme est juste. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a une sorte d'indifférenciation un peu problématique. où tout est possible et que finalement tout se justifie, et notamment le mal. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant on va essayer de rentrer un peu en dialogue avec des textes bibliques. J'en ai choisi deux notamment. D'abord, je propose qu'on reprenne peut-être un que je vous avais passé. Comme je ne suis pas sûr que vous l'ayez pris, je vous l'ai rapporté. C'est le psaume 104. On l'avait vu à peine à la fin de la séance sur Dieu créateur. Donc si vous l'avez, ce n'est pas la peine de le prendre. Si vous ne l'avez pas, vous le prenez. Si vous l'avez dans la Bible, ça peut suffire. Et puis, en même temps, vous prenez la deuxième partie de la feuille où, après avoir le texte d'Emerson, il y a une sorte de découpage qui vous est proposé du psaume 104.
Mais l'homme est quelquefois dur aussi avec la nature.
L'homme est quelquefois dur avec la nature, et on aurait tendance à dire la nature de l'homme, c'est d'être dur. Et que ce qui va le distinguer du monde naturel, c'est justement une gestion pacifique de ses pulsions de violence. À voir. Bon, pendant que je fais circuler le psaume 104, est-ce que vous, dans votre idée, il y a des textes bibliques qui pourraient être convoqués pour réfléchir au rapport entre Dieu et la nature ? Des choses qui vous viennent à l'esprit, des bouts de textes, des bouts de versets, des grands textes. Bon, le psaume 104 en tout cas. Le psaume 104, donc vous pouvez le lire en ayant un œil sur le texte et puis un œil sur le découpage que je vous en propose. Comme je vous l'avais dit à la fin de la séance sur Dieu créateur, on peut faire un découpage de ce texte qui tient compte du premier chapitre de la Genèse. Et donc de se rendre compte que celui qui écrit le psaume 104... en fait, observe la nature en ayant mis les lunettes Genèse 1. Hein, c'est comme s'il regardait le monde qui est autour de lui à travers le prisme de Genèse 1. Et donc, on va voir les journées qui défilent les unes après les autres. Alors, comment on peut faire ce découpage que je vous propose là sur cette feuille de deux manières. Tout d'abord, par le contenu thématique, on va voir que les parties correspondent au jour de Genèse 1, mais aussi par la forme, c'est-à-dire qu'il y a une alternance de séquences en « il » et de séquences en « tu ». Donc, vous allez les voir au fur et à mesure, et ça forme ce qu'on appelle une structure concentrique. Et toutes ces séquences en « il » et en « tu » sont encadrées par une séquence au début, une séquence à la fin, en « je ». Donc ça, c'est pour vous dire que les psaumes sont souvent bien réfléchis dans leur structure et que la structure participe au sens. Et que lorsqu'on veut comprendre le sens d'un texte biblique, souvent s'intéresser à la structure permet de repérer le centre du texte, qu'on appelle la pointe. Donc si on brosse ce texte avec cette technique, les séquences en jeu, les séquences en tu, les séquences en il, on obtient le découpage suivant. Donc je vous le repose, comme ça vous pouvez éventuellement noter sur le bord de la feuille. Le verset 1, c'est en jeu. Hein, mon âme bénit l'Éternel. C'est un impératif, c'est mon âme fait en sorte de bénir l'Éternel. Donc c'est moi, je bénis l'Éternel. Ensuite, les versets 2 à 5, on a une séquence en « il ». Versets 2 à 5, on a une séquence en « il ». Ensuite, les versets 6 à 9, on a une séquence en « tu ». Il y a la différence entre le « il » et le « tu » dans les textes bibliques ou dans la religion, c'est que le « tu », c'est la prière, et le « il », c'est la confession de foi. Donc, 6 à 9, c'est le « tu », 10 à 19, c'est du « il », 10 à 19, c'est du il. De 20 à 30, c'est du tu. 31, 32, c'est du il. Et puis on retrouve une séquence parallèle à la première. De 33 à 35, c'est du je. Donc, vous voyez qu'il y a un système tout à fait concentrique. La première séquence en je répond à la dernière séquence en je. La première séquence en il répond à la première, à la dernière séquence en il. Il y a une séquence en tu qui répond à la séquence en tu. Et au milieu, une séquence en il, toute seule, de 10 à 19. Eh bien, de 10 à 19, on a le centre du texte. Et sur le petit papier que je vous ai passé, on voit que cette séquence elle-même, elle est construite de façon concentrique. Donc je vous ai écrit les différents jours. Premier jour, c'est la lumière, le verset 2a. 2a, ça veut dire première partie du verset 2a. Deuxième jour, c'est le verset 2b, donc deuxième partie du verset 2. Le troisième jour, la création, vous les avez dans les versets 5 à 9. Donc c'est avec l'eau et la terre qui sont distingués. Ensuite, il faut sauter évidemment le centre qu'on vient de repérer pour arriver au verset 19 à 23 sur le temps, les saisons, jour et nuit, c'est le quatrième jour. Le cinquième jour, on a les poissons. Et donc, on a au milieu cette structure concentrique. Si on jette les yeux sur le texte, donc les versets 10, 18, on voit qu'effectivement, il y a au verset 10 les montagnes qui sont évoquées, et au verset 18, les montagnes qui sont évoquées. On a au verset 11 les animaux sauvages qui étanchent leur soif, avec les animaux des champs qui ne sont pas des animaux domestiqués en fait. C'est pas des, y a pas de traits, etc. Et qui font donc référence à ces animaux sauvages que l'on trouve également au verset 18. Ensuite, vous voyez qu'on a les oiseaux et les oiseaux. On a la végétation cultivée et la végétation cultivée. Donc c'est comme si on rétrécissait l'espace au fur et à mesure, comme si on faisait un zoom. Hein, on part de ce qu'il y a de plus sauvage et on arrive sur ce qui est le plus domestiqué et ce qui est finalement le lieu où l'homme peut vivre, c'est-à-dire le lieu qui a été créé pour que l'homme puisse y vivre. Et on y trouve tout au milieu, donc, les 14, versets 14 et 15, où il est question de l'homme. L'homme est au centre de la création. Oui, c'est très anthropocentrique. Et on voit qu'il consomme du pain, du vin, de l'huile. Avec ça, on est bien. Pain, vin, huile, trois éléments qui ont la même caractéristique. Quelle est la caractéristique du pain, du vin et de l'huile? Je sais que c'est une question super compliquée si je ne vous donne aucun indice, mais pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est ce genre de choses qu'on dit dans une perspective idéaliste? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors pour une lecture christocentrique, ben le pain et le vin, c'est la scène. Et l'huile, c'est le baptême dans l'Église catholique, mais bon, c'est pas très biblique. Sur le plan du baptême, mais effectivement, l'onction du Messie, elle se fait avec de l'huile. Donc, le pain, le vin et de l'huile sont des fruits de la nature sur lesquels la main de l'homme est passée. C'est-à-dire que c'est pas le fruit de la cueillette, c'est pas le fruit de la chasse non plus, c'est le fruit de l'activité de l'homme au sein de la nature. La nature transformée. C'est la culturation de la nature. Acculturation de la nature. Donc l'image du paradis, c'est pas l'image de la nature dans toute sa pureté. C'est l'image de la nature domestiquée dans la perspective de ce psaume. Et vous voyez, on pourrait faire une lecture un peu à la Emerson de ce psaume en disant... Ben voilà, le psalmiste, l'auteur du psaume 104, a bien compris Emerson. Emerson qui disait « Décrivez la nature, rendez compte de ce que la nature produit comme effet sur vous, dites les leçons de la nature, décrivez la nature et vous aurez les grandes leçons de la morale. » Eh bien en fait, le psalmiste n'est pas dans cette filière-là. Il décrit la nature, mais de façon raisonnée. Et il fait pour cela l'usage du mythe de Genèse 1. Et quand il observe la nature où l'homme se meut, eh bien c'est une nature qui a été foncièrement domestiquée. Et c'est une nature qui fait histoire, pour introduire déjà un premier mot qui va nuancer la nature, c'est l'histoire. Par rapport à ce psaume, est-ce qu'il y a des éléments... Enfin oui, je vous dirais, on ne l'a pas lu là, mais c'est parce qu'on l'avait lu la fois précédente. En le parcourant comme ça rapidement, il y a des choses qui ont attiré votre regard, ou par rapport à ce que je vous dis sur ma lecture possible du psaume 104, il y a des choses à dire, un peu à débattre, à discuter sur cette vision de la nature.
Que tes œuvres sont en grand nombre, tu les as toutes faites avec sagesse.
Oui, donc que tes œuvres sont en grand nombre, tu les as toutes faites avec sagesse. Donc, c'est la sagesse qui vous intéresse dans cette... Oui. Ouais. L'idée que justement, la nature, elle ne se développe pas comme cela sans être un peu orientée. Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose comme une sorte de dessin intelligent?
Oui, oui.
Vous savez, cette idée selon laquelle l'évolution de la vie, l'évolution du monde, correspond à un dessin conçu par avance.
Une certaine mesure.
En tout cas, il y a une mesure. Il y a l'inverse d'une anarchie. Donc, ce n'est pas que de l'entropie. Ce n'est pas que du désordre. C'est au contraire quelque chose qui s'organise. On avait vu que dans le récit de la création, de Genèse 1, le gros travail de Dieu, le travail de création, c'était pas de fabriquer les choses. C'était de mettre les choses en ordre, mais un ordre vital, hein, par opposition à un ordre géométrique peut-être. L'ordre vital, c'est-à-dire, quand il, à chaque fois il est dit « Dieu vit que cela était bon ». La traduction par « bon » est un petit peu problématique, il faudrait dire plutôt « Dieu vit que cela était vivable. » Et du coup, c'est de considérer que nommer les choses, leur donner une fonction, ça rend les choses plus vivables pour l'homme qui s'y trouve. C'est-à-dire que quand on décrit l'environnement, quand on lui donne du sens, c'est tout de suite moins hostile et c'est tout de suite plus facile à vivre. Quand vous découvrez une ville avec quelqu'un qui connaît la ville, ben la ville vous est plus familière que si vous êtes en quelque sorte terrassé par ce monstre inconnu qui vous tombe dessus. Oui ?
Je voulais dire que quand on lit ce psaume, ça symbolise la vie, c'est-à-dire le contraire de la mort.
Voilà, donc ce psaume qui symbolise la vie, le contraire de la mort, est-ce qu'il y a notamment des éléments qui vous font dire que ce texte parle de l'inverse de la mort ? Est-ce qu'il y a des choses qui en particulier ont retenu votre attention ? De façon générale, c'est un texte qui... Voilà. Alors, ça correspond à toute la création. Je crois qu'il y a dans ce texte la même ferveur que dans les textes d'Emerson. Alors, je ne voudrais pas faire une lecture trop simpliste d'Emerson non plus, en disant il se contente de raconter ce qu'il a sous les yeux. C'est un peu plus subtil que cela aussi. Mais ce qui est intéressant dans la lecture de ce psaume, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois ce que vous dites, on rencontre de la vie qui pousse, en quelque sorte, comme Emerson qui... globalement sans la vie qui le propulse en avant, mais c'est dans une écriture qui est pensée, avec de la sagesse, raisonnée, et qui montre que, je ne sais pas si c'est cadré, mais en tous les cas, c'est orienté. Bon. Oui.
Est-ce que ça n'a rien à voir avec le dieu horloger de Voltaire?
Alors, le dieu horloger de Voltaire, moi, je ne le connais pas suffisamment bien, le dieu horloger de Voltaire. Quel est l'élément sur lequel vous diriez c'est assez analogue?
C'est-à-dire que tout est organisé, c'est-à-dire
Voltaire s'est trouvé avant, hein, le 17e.
C'est-à-dire que...
Le grand architecte.
Oui, ou le grand architecte dans une autre façon de le nommer. C'est-à-dire que ce que nous avions vu sur le Dieu créateur dans les textes bibliques, c'est celui qui donne des impulsions et un sens possible, mais ce n'est pas lui qui, en permanence, remonte la mécanique, pour filer votre métaphore, ou qui remet à l'heure. C'est pas lui non plus qui crée le mécanisme. Le mécanisme. C'est-à-dire que il serait peut-être effectivement grand architecte et encore l'architecte comme celui qui observe un lieu et explique comment ce lieu peut fonctionner pour y établir notre maisonnée, pour y établir notre lieu de travail, etc. C'est-à-dire que celui qui est capable de voir les ressources de ce lieu, le potentiel de ce lieu, et de nous aider à y prendre place, du coup, à pouvoir nous y implanter, mais pas comme l'architecte qui tracerait le plan que nous devrions exécuter. Ou alors, il trace le plan que nous devons interpréter. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'était de voir qu'il y avait un rapport de liberté qui était laissé dans l'acte créateur de Dieu. C'est comme, j'utilise toujours cette métaphore, hein, mais je la crois assez performative, c'est comme cet enfant qui emmène ses parents dans sa chambre pour leur expliquer comment sa chambre fonctionne, alors que les parents considèrent que la chambre est dans un pur bazar. Non, en fait, c'est bien rangé du point de vue de l'enfant. Et il explique comment sa chambre fonctionne. Et du coup, pour les parents, la chambre est tout de suite plus vivable. Un peu de choses près. Je vous fais passer un... Non, je ne vous fais pas passer, je pense que je l'avais mis derrière la feuille. Un roi 19. C'est donc, vous tournez la page et vous avez un roi 19. Le deuxième texte que je vous propose pour notre étude. Sur la gauche, je vous ai mis le texte en hébreu. Pour ceux qui font de l'hébreu, ça peut être intéressant. Et à droite, le texte en français dans sa traduction Louis II. Je vous ai choisi ce texte à la fois parce qu'il est question de la nature, de Dieu qui se manifeste peut-être ou pas par la nature, parce qu'il est question de montagne, et que je me doutais bien que vous me parleriez de montagne, et qu'il y ait question aussi d'histoire, parce qu'on va voir le lien qui se fait en fait entre nature et histoire. Alors je vous restitue peut-être un peu le contexte. Donc on est dans le premier livre des rois à ce moment-là, dans ce qu'on appelle le cycle du prophète Élie. Donc c'est le moment où il y a une sorte de schisme religieux en Israël, le royaume du Nord. Il y a d'un côté l'Éternel, Yahvé, le tétragramme, Adonai, le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et puis il y a Baal, les Baals, avec les prophètes. Et au bout du compte, Élie se retrouve à être le seul qui soit resté fidèle à l'Éternel. Tous les autres prophètes sont du côté de Baal. Et du coup, Élie est persécuté. Et c'est dans ces textes que l'on entend parler de l'horrible Jézabel. Bien. Donc, Élie est persécuté. Et à un moment donné, il y a une sorte de concours entre les prophètes de Baal et Élie, pour savoir quel est le vrai Dieu. Et alors, du coup, le concours consiste dans la chose suivante, ça ressemble un peu à une ordalie, mais ça n'en est pas une. Les deux parties, les deux clans, les deux équipes doivent construire chacune un autel en bois, dessus y mettre des animaux pour qu'ils soient sacrifiés, invoquer Dieu sans y mettre la main, de façon à ce que ça s'enflamme, c'est le principe d'un sacrifice, et que ça s'enflamme par l'action de Dieu. Donc, très élégamment, Élie dit « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Et donc, les prophètes de Baal commencent à prier Dieu, à prier Baal, pour que Baal jette le feu sur le sacrifice, il ne se passe rien. Du coup, ils commencent à danser, etc., ils chantent. Après, ils s'entaillent, tout ça. Bon. Puis, pendant ce temps-là, Élie leur dit « Mais peut-être qu'il est en train de dormir, peut-être qu'il est en train de faire d'autres choses, alors continuez, soyez un peu plus insistants, etc. » Bon, il ne se passe rien. Finalement, au bout d'un certain moment, ils abandonnent la partie, c'est au tour d'Élie. Et là, globalement, c'est à peine si Élie dit « Amen » que ça y est, ça s'embrase. Il avait fait mettre de l'eau avant, hop, l'eau disparaît, tout. Enfin, il n'y a plus rien. C'est l'holocauste parfait. Holocauste, ça veut dire consommation totale du sacrifice. L'holocauste, ça veut dire que tout monte à Dieu. Allah, c'est donc le monté. Donc l'holocauste, c'est tout monte à Dieu. Ensuite, on fait zigouiller les prophètes de Baal, puisqu'ils ont perdu. Bon. Et puis, on arrive au chapitre 19, verset 1. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. » Vous voyez, c'est quand même assez bizarre. C'est qu'en dépit de cette victoire magnifique d'Élie, eh bien, c'est toujours le bazar. Et que Élie ne l'a pas emporté pourtant avec quelque chose que l'on pourrait considérer comme un miracle surnaturel. Bon. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, c'est le royaume du sud, et il laissa son serviteur. Puis pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, Élie, qui n'en peut plus, qui est dans un profond découragement semblable à celui de Jonas. Vous pouvez comparer dans le livre de Jonas au chapitre 4, verset 8, où Jonas demande également la mort. Et puis, Élie se plonge dans un sommeil suicidaire. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici... Un ange le touche et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et alors là, le lecteur, un peu familier des textes bibliques, se dit « Il va se passer quelque chose. » 40 jours et 40 nuits, ting, et les signaux d'alerte partent dans le désert. Donc bien sûr, ça évoque 40 ans de pérégrination dans le désert. Donc on se dit « Moïse ». Mais on se dit aussi « Montagne de Dieu, Moïse ». On se dit « 40 jours, 40 nuits ». Moïse. On peut se dire aussi 40 jours, c'est le nombre de jours de pluie dans le déluge selon la version sacerdotale. Bon. On peut se dire on est en train de nous refaire le coup de Moïse là. On est en train de nous refaire le coup de Moïse. L'Horeb, c'est là où Moïse se rendit pour entendre ce que Dieu avait à lui dire et ce qu'il avait à dire au peuple. Donc, on se prépare, et alors là, poum! Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. La caverne. Là, le lecteur n'en peut plus, parce qu'il se souvient qu'en Exode 33, quand Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa face, de lui montrer sa gloire, Dieu lui avait dit... Bon, C'est que c'est pas possible de me voir face à face, de vivre. Ça, techniquement, ça marche pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre dans une anfractuosité, une petite caverne. Je mettrai la main sur toi, je passerai, puis quand je serai passé, tu pourras voir mes arrières. Mon dos. Qu'est-ce qui se passe? Et quand Moïse voit le dos de Dieu, on est en Exode 34, c'est le décalogue. Le dos de Dieu, c'est le décalogue. Et donc là, on est dans cette même scène finalement. On est dans une nouvelle théophanie, au sens technique du terme. Théophanie, c'est quand Dieu se manifeste. Phanaïn, c'est se manifester, c'est briller. Épiphanie, c'est quand ça se manifeste au-dessus d'eux, Jésus, avec les mages qui voient l'astre au-dessus de Jésus. Bien. Donc, on a Élie qui est dans la configuration de Moïse, à tout point de vue. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Alors en fait, je reprends tout de suite cette expression, le Dieu des armées, parce que c'est traduit comme ça ici, c'est un peu malheureux. C'est donc le Dieu Tsabaoth. En hébreu, Tsabaoth. Et en fait, c'est la nouvelle Tob qui en donne la meilleure traduction. Alors, si vous voulez repérer le mot Tsabaoth dans le texte hébreu, vous voyez où est la ligne 10. Et si vous partez de la gauche, c'est le troisième mot en partant de la gauche. Donc il y a un mot, un tiret, un mot, un espace et Tsabaoth. Le mot qui est juste à droite, donc en fait avant, c'est Elohel, donc Dieu. Et le mot qui est juste avant, c'est le Yahou pour l'Éternel. Il y a le tétragramme, Yod, E, Wav, E. On peut translittérer par Y, H, W, H. Tsabaoth, en fait, c'est une sorte d'assemblée démocratique. C'est quand même très paradoxal. Le Yahvé Tsabaoth, en fait, c'est celui qui siège au milieu des dieux. C'est-à-dire, c'est celui qui est assis parce qu'il préside l'assemblée. Et en fait, la Tob, dans sa nouvelle version, parle de Dieu souverain. Et c'est préférable, parce que c'est l'idée qu'il y a une façon de régner. Mais Dieu des armées, ça fait quand même le Dieu militaire, le Dieu guerrier, le Dieu qui veut en découdre. Et c'est infidèle avec la langue hébraïque. Donc, voilà pourquoi je vous propose plutôt cette compréhension du Dieu Tsabaoth.
Dieu souverain.
Alors. Dieu souverain, c'est mieux, oui.
Ah, oui.
Et c'est souverain au sens où il est dans l'assemblée des dieux. Et il préside l'assemblée des dieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un polythéisme. Mais ça veut dire que c'est une façon, je crois, de dire que Dieu n'est pas simplement attaché à notre petite personne, qu'on n'est pas la seule dimension pour lui. On n'est pas le seul vis-à-vis, en quelque sorte. Bien, donc, on a notre Dieu qui dit « Que fais-tu ici ?» Donc il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Alors, maintenant, vous allez faire un petit exercice pour voir si vos lunettes fonctionnent bien. Vous vous reportez immédiatement au verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 13 ?
Dans le psaume 54 ?
Non, non, on n'est pas dans le psaume 54, on est dans Arroi 19.
Oui, oui.
Le verset 13. Donc on saute un peu, on lit le verset 13. Oui, Jean-Claude ?
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie ?
Et le verset suivant ?
Quand Élie l'entendit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées.
Ouais, ouais.
Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à me tuer.
Bien. Alors, vos réactions ? C'est une répétition. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence ? Ou qu'est-ce que... Vous voyez ça ? Qu'est-ce que vous dites ? Erreur de copiste ? Quelle intention ? Oui, mais il y a quand même un texte au milieu. Alors, c'est insistant, mais quand même, on est dans une narration. Et puis, insister là-dessus, c'est quand même bizarre. C'est peut-être quand même pas le cœur du message évangélique. Enfin, je vous dis ça pour vous titiller un peu. Hein, pour... Mais bien sûr que l'Évangile est déjà dans le Premier Testament, où il n'est pas confiné au Nouveau Testament. Emerson dirait que l'Évangile n'est pas confiné au texte biblique. Moi aussi, d'ailleurs. Enfin, ce que vous proposez n'est que bonne réponse. Hein. Je veux dire, tout est envisageable de toute façon. C'est pour qu'on essaie de faire un peu la liste de toutes les réactions possibles quand on voit qu'il y a une telle répétition. Je sais que vous êtes trop respectueux du texte biblique pour vous dire que c'est une faute de copiste et que...
Non, mais c'est souvent répété dans la Bible. Mmh.
Ah, voilà. C'est une répétition pédagogique. Mais là, c'est quand même mot pour mot. Hein. Il n'y a même pas vraiment de déplacement de sens en rajoutant une petite notion, quelque chose. Bon.
Il y a comme une parenthèse entre justement ces deux textes qui se répètent. Avec ouais. Ce ouais. Très beau texte que moi j'aime beaucoup.
Ouais.
Le passage de l'Éternel qui n'est pas dans.
Voilà. Eh bien, en fait, il me semble que l'expression mise en parenthèse est assez juste, si ce n'est qu'en français, quand on met en parenthèse, c'est pour diminuer le niveau de sens dans le texte. C'est accessoire quand on met entre parenthèses. Là, il faudrait plutôt dire mettre sur un piédestal.
Oui, c'est ça.
Donc c'est pour mettre en évidence, c'est pour valoriser, c'est pour intensifier, c'est quasiment pour mettre en apposition. Très bien, alors du coup, on regarde au milieu, ce qu'il y a au milieu, avec deux fois plus d'attention. On se dit, là, il y a quelque chose de décisif. Donc, voici les versets que nous n'avons pas lus. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa. » Donc ça, c'est pile du Moïse aussi. Hein. « Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. » Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage, etc. Un murmure doux et léger. Je crois que c'est Lévinas qui traduit par une voix de fin silence. Il fait ça, et à juste titre, parce que on a retrouvé à Qumran... c'est le fragment 4Q405, dans les fragments 20-22, ligne 12, un chant qui accompagne le sabbat, donc le jour particulièrement saint dans le calendrier, et il est question de voix de silence divin. Enfin, le traducteur a opté pour voix de silence divin, et on va voir pourquoi. Bon. Donc, ce très beau texte, je suppose que d'autres partagent le plaisir de l'entendre. C'est un texte assez important, en fait, voire décisif, sur bien des aspects. Et le premier aspect, c'est en fait le rapport entre Dieu et la nature. Ce que vous l'entendez, à chaque fois qu'il y a une manifestation dont on se dit « c'est une manifestation de Dieu », Dieu n'est pas dedans. Et la foi précédente, on s'était interrogé sur Exode 3. C'est Exode 3 aussi, ce texte. Exode 3, c'est quand Moïse fait la connaissance de Dieu pour la première fois, dans le désert, près du buisson ardent. Et on s'était dit, la voix, elle vient du milieu du feu. Est-ce que le feu, ce ne serait pas Dieu ? Je vous avais dit non, mais je ne vous avais pas trop expliqué pourquoi. Là, on a en quelque sorte... une manière de décrypter Exode 3. Mais aussi, Exode 19, quand Dieu est à l'Horeb, que Moïse y est aussi, et puis qu'il y a une espèce de fournaise, grosse fumée, on se dit, bon ben voilà, cette grosse fournaise, cette grosse fumée, c'est Dieu. Eh bien, on voit que Dieu n'est pas dans ces manifestations-là. Oui, dans un murmure doux et léger, ou une voix de fin silence. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une opposition à laquelle on n'est pas forcément très habitué. Parce que quand on dit que la première manifestation, c'est un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers, en fait, c'est un rouard. Ça veut dire c'est un esprit. C'est le souffle, hein. L'esprit, c'est le souffle, le vent. Et donc là, on a un rouar, un pneuma. Et du coup, comment le texte joue-t-il? Si on prend la structure, on a finalement quatre manifestations. On a trois manifestations naturelles. Et la première, elle est coordonnée avec deux participes. Hein, on voit que c'est déchirant les montagnes et brisant les rochers. Et puis, il est avec deux qualificatifs. Le vent, il est fort et violent. Ensuite, il y a le tremblement de terre, il y a le feu. Et ensuite, on est avec quelque chose qui est... Donc ça, c'est trois manifestations naturelles. Et puis après, on a cette voix de fin silence, ce murmure doux et léger. Et on a une symétrie par rapport à l'esprit, par rapport au vent. Hein, le vent a deux qualificatifs, il est fort et violent, et le son, puisque c'est call, c'est la voix, a deux qualificatifs, rendus ici par doux et léger. Donc il y a une opposition qui est construite dans le texte entre le souffle, l'esprit, et la voix. Alors en fait, comment est-ce qu'on peut essayer de rendre compte de cette expression? On peut en tous les cas essayer d'entendre ce à quoi elle se réfère. Il y a d'une part, donc l'expression c'est « call », la voix, le son, « de mama » ou « wodaka ». Alors, le plus simple c'est « wodaka » parce que c'est la racine « dak », donc « d » et « q », hein, si vous voulez. Et on connaît ça déjà avec le songe que Joseph fait au sujet des vagues, des vaches grasses et des vaches maigres. Les vaches maigres, elles sont dak. Donc, c'est fin, c'est maigre, c'est peu consistant, c'est maigrelet. C'est la voix de Jane Birkin. Et de mama, on l'a notamment dans Job, et puis aussi dans un psaume, le psaume 107, verset 25 et suivant, on a les flots qui se taisent. On a les flots qui se taisent, et on pourrait dire, c'est le calme de Bonas après la tempête. Bonas, A-C-E, hein, pas A-2-S-E, c'est pas la Bonas. C'est le calme plat après la tempête. Donc c'est, vous voyez, c'est fin silence, parce que c'est maigrelet et que c'est silencieux. Une voix de fin silence. C'est une très bonne traduction, en fait. Donc, trois manifestations violentes, et puis le call, la voix, qui prend le contre-pied. Et on ne dit pas que Dieu était dans le call. Hein. On ne dit pas que Dieu était dans la voix. Mais en tout cas, il y a cette voix qui prend le contre-pied, qui réagit. Et à ces trois manifestations assez violentes de la nature vont être opposées trois missions données par Dieu, données par la voix. Trois missions qui ne vont pas être des missions naturelles, mais qui vont être des missions historiques. Au grand vent, au tremblement de terre et au feu, on va faire ceci. Donc, je reprends le verset 15. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, un, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. 2, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et 3, tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et c'est là que Élisée surgit et un jour prendra la place d'Élie. Donc vous voyez, à ces trois manifestations naturelles, le vent, le tremblement de terre et le feu, on a trois missions historiques et inscrites dans une logique de la justice. Et pourquoi je dis de la justice ? Parce que, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000, etc. Alors bon, vous allez me dire, c'est super violent cette affaire.
Ah oui ?
Ouais. C'est échapper aux éléments naturels, échapper à l'ouragan, au tsunami et à l'incendie pour tomber sous l'épée, c'est pas génial. Bon. L'épée est la figure symbolique de la justice. L'épée à double tranchant, c'est ce qui sort de la bouche du prophète Ézéchiel, ce fera de ma part, pour exprimer cette parole de Dieu qui tranche, qui sépare le vrai du faux, et qui établit la justice, qui l'établit au sens de « il la prononce ». Alors on peut toujours faire une lecture très militaire de ce texte, ou très répressive, mais on peut d'abord faire une lecture où l'épée, c'est ce qui est utilisé comme métaphore du verbe de Dieu qui tranche dans le tohu-bohu et qui permet de mettre en évidence ce qui est vivable. Et donc c'est le col, la voix, qui fait le lien, qui fait le centre. Donc vous voyez, l'expérience d'Élie, elle est très proche de celle de Moïse et elle nous aide à comprendre les manifestations cosmiques qui se déroulait du temps de la révélation au mont Sinaï. Les manifestations spectaculaires ici ne révèlent pas Dieu, elles ne sont en quelque sorte que sa face extérieure. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres avis sur la question. Parce que là, négligemment, je vous ai dit que du coup, la nature n'était plus ce qui représentait Dieu, ou la nature n'était plus Dieu. Négligemment, avec ce texte, on voit Dieu extérieur à la nature. Éventuellement animateur au sein de la nature, mais en tous les cas, Dieu qui n'est pas identifié à la nature, et même qui s'en distingue, puisque là où la nature réagit, Dieu agit différemment. Bon, je continue du coup, dans les trois minutes qui me restent. À mon avis, pourquoi les textes bibliques ont tendance à distinguer Dieu de la nature ? Eh bien, certainement pour les raisons que l'on indiquait tout à l'heure sur « il ne faudrait peut-être pas avoir une vision trop angélique de la nature ». C'est que la nature, effectivement, est terrible, cruelle et souvent injuste. Il y a plus que cela. C'est que si Dieu était la nature qui intervient dans le cours de l'histoire, si Dieu était la nature, ça veut dire que Dieu interviendrait dans le cours de l'histoire à travers la nature pour détruire la nature. Il y a quelque chose d'illogique dans cette affaire-là. Si Dieu intervient à travers la nature, dans ce cas-là, il est dans une logique de la destruction. Alors vous allez me dire, bien sûr, la nature c'est aussi tout ce que dit Emerson, le petit chant des oiseaux, les fleurs qui poussent, l'aspect bucolique, tout ça, c'est mignon, tout plein. Mais il y a aussi le côté extrêmement destructeur. Destructeur de façon aveugle. Bon, bien sûr, on peut considérer que ceux qui étaient dans les tours jumelles de New York l'avaient bien cherché, ils n'avaient qu'à pas être là, c'est une juste punition de Dieu, bon. Là je pense que ça serait une lecture pas simplement infantilisante, mais bête. Si Dieu est dans la nature, et quand on voit le spectacle de nature, on peut s'interroger sur la moralité de Dieu. Du coup, vous voyez, il ne suffit pas d'avoir une métaphysique qui nous semble intéressante, il faut aussi voir les conséquences que la métaphysique a sur la morale. Vous vous souvenez d'Ilfred Monod qui disait « Dieu est diminué d'un point de vue métaphysique, mais il est grandi moralement, et je préfère ce Dieu-là ». Et d'un autre côté, il y a des fois des façons de diminuer Dieu métaphysiquement qui le diminuent aussi moralement. Vous avez une question ? L'adversaire de Dieu. Donc vous dites qu'il y aurait effectivement une sorte d'adversité à Dieu, une sorte de combat et avec des victoires qui ne sont pas toujours dans le camp de ce que l'on souhaiterait. En tous les cas, ouais, sans forcément personnifier le mal ou sans forcément personnifier l'adversaire, il est manifeste que des choses s'opposent au projet de Dieu, des choses s'opposent à notre bonheur et qu'il y a là un combat. Et le combat, on le trouve ici finalement, à travers la métaphore de l'épée, c'est-à-dire qu'il y a un combat en tous les cas pour la vérité, un combat pour mettre en exergue ce qui est beau et ce qui participe à la vie. Après, les modalités du combat, c'est à voir. Mais en tous les cas, oui, il y a une lutte.
C'est le contraire du en fait des amis. Par exemple, l'enfant va aller auprès du serpent et tout ça, et que le serpent est inoffensif.
Et alors, effectivement, c'est différent d'une nature qui a été pacifiée, avec le récit du petit enfant, du Messie petit enfant, de l'Emmanuel, où il peut mettre la main dans le trou de la spique sans se faire attaquer. Ça, c'est un peu les conséquences. Si Dieu intervenait dans l'histoire par l'action de la nature, en fait, ça détruirait la nature, ça aboutirait à la destruction de toute la création. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je pense, on est dans une situation où c'est dans l'histoire que l'action de Dieu s'inscrit de façon à à accomplir une action qui ne passe pas par la violence autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'il y a là une gestion de la violence que la nature ne prend pas en charge. C'est surtout que l'action de la nature, elle est immédiate, avec des conséquences immédiates. L'action de Dieu, elle s'inscrit dans la durée, dans l'histoire. Pourquoi ? Pour permettre la repentance. Je vous ai dit qu'il y avait une analogie avec Jonas, avec le même désespoir suicidaire. Jonas doit aller voir ce qui se passe du côté de Ninive pour permettre la repentance. Il se dit, ça ne va pas marcher, du coup je m'enfuis à Tarsis, etc. Et quand il dit ce qu'il a à dire aux habitants de Ninive, les gens se repentent. Si d'ores et déjà Dieu avait éradiqué à coup de sécheresse ou je ne sais quoi, la sécheresse est trop lent, mais de grêle, etc., il n'y aurait pas eu de repentance possible. Alors qu'en fait, les gens étaient capables de repentance. Jonas est dépité quand il voit que les gens se repentent. Ils se disent, mais c'est ça la justice de Dieu ? Et du coup, voilà, il est déprimé. Dieu fait pousser un petit kikayon, une plante. Jonas peut se mettre à l'abri parce qu'il y a il y a beaucoup de soleil. Puis quand il s'est familiarisé avec cette plante, il tue la plante. Donc, action naturelle. Et là, Jonas est au désespoir parce qu'il a plus son compagnon, en quelque sorte. Et là, leçon de Dieu, quoi, tu te lamentes pour une malheureuse plante que j'ai fait mourir alors que tu étais prêt à ce que j'extermine une population entière. Donc, il est dit qu'effectivement, il peut y avoir une interaction entre Dieu et la nature, mais pas comme le moyen par lequel Dieu permet à l'homme de faire histoire, a priori. Donc, il me semble que ce que l'on peut dire, c'est que la Bible exprime une interaction entre, pour reprendre les mots d'Emerson, entre l'âme et le non-moi, une interaction, et qu'elle décrit ces interactions sous l'angle de, il n'y a pas identité entre les choses et le divin, il n'y a pas identité entre le monde et le divin s'exprime dans les interactions entre l'âme et le non-moi, entre l'âme et la nature. Le divin s'exprime dans les relations que nous entretenons avec, non pas la nature, mais la création. La création étant ce lieu organisé pour rendre la vie possible. Voilà.